Calade Jazz. Tout sur le jazz avec Philippe, Richard et Dédé. Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes bien sur Calade 100.9, excellente idée. Soyez les bienvenus dans votre émission Calade Jazz, je suis avec mes complices de toujours, Philippe et Dédé, que je salue.
Bonjour tout le monde.
Bien ensemble, c'est bien. Je vous rappelle que nous vous proposons tous les troisièmes jeudis à 19h une nouvelle émission dans laquelle nous allons parler et diffuser de la musique sur le jazz. Et ce soir, nous allons rendre hommage à une grande femme du jazz qui nous a quittés il y a 20 ans, qui aurait eu 90 ans cette année. Je veux parler bien sûr de Eunice Kathleen Wemon.
Nina.
Non. Comment tu le savais?
Oh mince. J'ai fait une boulette là, pardon.
Ouais, non. Alias Nina Simone. Voilà. Et pour que cette émission soit la plus complète possible, nous sommes avec notre experte, Françoise, en direct par téléphone. Bonjour Françoise, tu nous entends?
Bonsoir, bonjour.
Voilà, je vous présente Françoise qui est spécialisée dans l'histoire de l'art et elle interviendra dans l'émission pour nous apporter un éclairage plus complet entre la musique de Nina Simone sur les événements des œuvres d'art de son époque. A-t-elle été influencée par l'art, par exemple? Nous verrons. Eh bien, si vous permettez, on va commencer par sa jeunesse, cette voix puissante et rageuse qui commence en février 1933, donc à la naissance de Eunice Kathleen Wemon.
Vous avez bien retenu? Nina.
Non, elle n'est pas encore Nina.
Ah mince,
je ne mélange pas tout.
Elle n'est pas si bonne encore?
Pas encore, mais non. C'est son véritable nom. Elle naît dans la Caroline du Nord, à Tryon exactement, dans une famille nombreuse. Elle est la sixième sur 8 enfants. Elle va grandir dans un univers musical et par son père qui chante, il est appelé le siffleur. Là, Philippe, il va falloir que tu nous expliques un jour. Il peut même produire deux notes en même temps. Je te laisse travailler là-dessus, tu nous diras la prochaine fois.
On fera une émission spéciale sur un autre musicien qui s'appelle Toots Tiedemans, qui était très fort pour ça, et tout le monde connaît le thème.
D'accord.
Donc, je fais référence.
Ok. Et sa mère, qui, elle, l'a fait jouer à l'église parce qu'elle est, entre autres, révérende. Révérende.
D'accord,
voilà. Compris, c'est bien.
Elle va la faire jouer à l'église très tôt, elle se met au piano classique, elle va donner son premier concert, un récital donc classique, à l'âge de 12 ans. Alors Nina Simone, je dis Nina Simone parce que c'est quand elle racontera dans ses mémoires que dans cette performance, ses parents, avant de jouer, vous s'étaient installés au premier rang, bien entendu on leur a dit, vous êtes des Noirs, vous vous mettez à l'arrière de la salle.
Quel drôle de pays quand même.
Voilà. Et Nina ajoute qu'elle a refusé de jouer tant que ses parents n'étaient pas revenus au premier rang, ce qui était le cas. Donc elle a pu faire son premier concert. Et comme elle veut devenir la plus grande concertiste noire américaine, elle va travailler très dur. Mais comme la crise de 29 passe par là, la famille est obligée de déménager dans un quartier plus pauvre de la ville. Et c'est là où la... Parce que sa mère, du coup, comme c'est difficile, fait des ménages. Et sa patronne, Mrs. Miller, qui remarque que cette future grande, eh bien, il faut l'aider. Alors elle va lui conseiller d'encourager ses dispositions. Avec l'appui des voisins, elle va réussir à récolter de l'argent pour payer sa formation musicale. Et notamment, elle va même lui payer pendant un an des cours de piano. Avec, elle va lui présenter Muriel Masinovic, alias Miss Mazzy, qui va devenir un peu sa seconde mère, quoi, qui va l'accompagner jusqu'à l'âge de 12 ans. Après, elle va lui dire, j'ai plus rien à te apprendre, donc elle va proposer de l'envoyer au lycée Allen, qui est un pensionnat pour enfants noirs surdoués, qui est un peu plus loin, donc elle est obligée d'y aller en pension complète. Elle va y rester 5 ans, et là, elle sort major de sa promotion en juin 1950. Important cette date. Et avant d'aborder la suite de sa carrière, je propose, comme elle l'est toujours dans cette mouvance de piano classique, de l'écouter un morceau justement de piano classique. Et ça, je crois, Philippe, que tu nous as dégoté quelque chose.
Alors oui, je vous ai dégoté quelque chose, bon, qui est assez rare en fin de compte, mais on peut voir, on peut écouter. Donc on va commencer nos voyages de Nina Simone avec donc ce premier thème, et ce pour illustrer donc sa sensibilité et interprétation de la musique classique. Sachant que son compositeur préféré était Jean-Sébastien Bach, dont on dit qu'il est le plus jazzman de tous les musiciens classiques. D'ailleurs, j'ouvre la parenthèse, je vous encourage aussi à écouter, entre autres, Rod Ascott, et surtout le pianiste français Jacques Loussier, qui a consacré une grande partie de sa vie musicale avec ses instruments qui se sont appelés playback. Mais revenons donc à notre Nina. Sauf erreur de ma part, je ne crois pas qu'il existe des enregistrements dans les années 1950, époque où elle se destinait à une carrière classique. Je ne crois pas. Il a fallu attendre les années à peu près 1960 et les premiers succès jazz pour qu'elle insère dans ses concerts et aussi dans son jeu de piano, effectivement, une grande part de classique et qu'on va retrouver selon toute sa carrière. Je vous propose d'écouter un enregistrement qui a été réalisé le 12 avril 1963 au Carnegie Hall de New York, où elle interprète un thème issu de Samson et Dalila de Camille Saint-Saëns. Le titre du morceau, Mon cœur s'ouvre à toi, donc Nina Simone, Carnegie Hall, 1963.
C'était Mon cœur s'ouvre à toi de Camille Saint-Saëns, joué par Nina Simone. Et nous continuons son parcours, donc fini la jeunesse, nous sommes en 1950. Miss Maisie lui conseille de rentrer à l'Institut Curtis, très prestigieux institut de musique à Philadelphie. Malheureusement, il faut présenter un examen d'entrée et là, c'est le drame parce qu'elle échoue. Pourquoi ? Elle dira dans ses mémoires, c'est parce qu'elle était noire. L'Institut dira que c'est parce qu'il y avait beaucoup de demandes par rapport aux places limitées et qu'ils avaient déjà pris des noirs. On ne saura pas la vérité. Mais c'est surtout que pendant les années 50, elle va donc être obligée de faire des petits boulots pour survivre, surtout pour se payer des cours de piano avec celui qui aura dû être son professeur à Curtis, Vladimir Sokolov. C'est une période très dure qui va commencer pour elle. Elle va aller jouer dans un club à Atlantic City, à la fois du classique, et elle va passer vers le jazz. C'est là où elle va prendre un pseudo à cause de sa mère, pour ne pas lui dire qu'elle joue du jazz, la musique du diable. D'ailleurs, quand sa mère l'apprendra, elle lui coupera les ponts. Et là, elle change de nom. Donc, François, je me retourne vers toi pour que tu nous expliques pourquoi elle choisit ce surnom de Nina Simone.
Eh bien, comme tu nous l'as déjà dit, Richard, c'est sous le nom de Eunice Kathleen Wayman que le 21 février 1933 retentit le premier cri, lancé par celle que le monde entier connaîtra pourtant sous le nom de Nina Simone. À 6 heures du matin, du fin fond de la Caroline du Nord, là où sévit le Ku Klux Klan. C'est à 21 ans qu'elle est devenue chanteuse, mais malgré elle, remisée au placard les ambitions d'être concertiste, amère d'avoir été recalée par l'Institut Curtis, elle travaille pour un photographe, pour payer les cours de piano qu'elle continue pourtant à suivre auprès de ce professeur dont tu as parlé, de cet institut tant convoité. Puis, elle devient accompagnatrice d'un professeur de chant. Et quand l'élève devient prof, le temps est arrivé de donner à son tour des cours de piano. Ses élèves, eux aussi, doivent gagner de quoi la payer et ils lui parlent de leurs escapades à Atlantic City. Et bientôt, chaque week-end, elle va prendre le train pour le New Jersey, à moins de 100 km de Philadelphie, s'étant le plus long des fronts de mer au monde. Sur près de 7 km, les hôtels partagent le littoral avec les casinos, reléguant une faune moins chanceuse, attirée par le jeu et les paillettes dans des bouges interlopes. Et elle échoue au Midbar, dans l'un d'entre eux, tenu par un certain Harry, qui très vite l'oblige à chanter pour s'accompagner sous peine d'interrompre son contrat. Alors elle s'accroche contre son gré. Chaque soir, elle accompagne ses notes de sa tessiture grave de contralto qui la hissera au sommet. Ce timbre sourd qui la rendra unique, elle le réserve aux ivrognes et aux défaits des tapis à roulettes. Au Midbar, elle y restera 3 ans pour quelques dollars la semaine. Mais pour ne pas décevoir sa mère, qui avait tout misé sur elle, pour dissimuler ce qu'elle considère elle-même être un naufrage, elle change de nom. Fini la chorale et les gospels de l'église, où maman Mary Kate, pour officier comme révérende, quittait son tablier de femme de ménage afin d'élever ses 8 enfants. À 3 ans, elle la met au piano. Elle a l'oreille absolue et solitaire, vissée à son tabouret 8 à 9 heures par jour pour atteindre son rêve ultime, devenir la première concertiste classique noire des États-Unis. Mais comme vous l'a dit Richard, seule candidate noire de sa promotion, elle est refusée par l'Institut Curtis. En tous les cas, c'est ce qu'elle va retenir comme référence. Elle s'enfuit, quitte Philadelphie, sa famille qui y avait déménagé, assise au piano bar. C'est le jazz qui va la faire connaître, dont elle dira « Le jazz n'est pas seulement de la musique, c'est un monde et un mode de vie, une façon d'être, une façon de penser. » Et pour en jouer, elle va devenir Nina Simone. Nina pourquoi ? Parce que c'est le surnom que lui donne son petit ami de l'époque, et ça veut dire « petite fille » en espagnol. Et Simone, parce qu'elle a été conquise par une actrice française de 31 ans, révélée dans Casque d'or de Jacques Becker en 1952. Simone s'ignorait. Mais ce que ne sait peut-être pas Nina, c'est que Simone, née Kaminker, d'un père juif polonais et d'une mère française, a fait tout le contraire. Elle a conservé, pour nom de scène, celui de sa mère.
Eh bien, merci François.
Merci François, super.
Ah oui. Et maintenant, Philippe, tu vas nous parler de cette période des années 50. Comment elle passe au jazz? Comment elle va réussir à enregistrer ses premiers disques? On veut tout savoir, là.
Eh bien, tout à fait. C'est-à-dire, pour, poursuivre ce que vient de dire François, c'est qu'à forcément, elle ne pouvait pas non plus rester au bord de la mer tout le temps. Et donc, comme beaucoup de musiciens et musiciennes dans ces années-là, eh bien, on arrive à New York. À New York, et elle ne va pas forcément aller dans le quartier noir de New York, qui est le Harlem, mais plutôt Greenwich Village, qui est, on va dire, plutôt un quartier réservé aux Blancs. À cette période, elle va enregistrer trois albums. On est entre 1957 et 1959. Le premier qui va s'appeler Little Girl Blue, de 57, qui ne sortira d'ailleurs qu'en 1959 avec la compagnie Bethlehem, délai qui poussera Nina à signer parce que déçue de la lenteur de la marque de promotion avec une autre maison, en l'occurrence Cold Peaks Records, avec qui elle enregistre un second album en 1959, The Amazing Nina Simone, et At Live at the Tom Hall de New York le 12 septembre 1959. C'est beaucoup, et elle va s'intéresser, je dirais comme beaucoup, aux thèmes issus des comédies musicales à l'époque qui ont pignon sur rue à Broadway. Et bien évidemment, en premier lieu, le fameux Porgy and Bess composé par George Ira Gershwin, et donc consacré, comme vous le savez, au peuple afro-américain. Tout au long de ces deux émissions, je vous proposerai, dans la mesure du possible, uniquement des enregistrements publics dont les dates et les captations n'auront peut-être pas été réalisées dans la période que je suis en train d'évoquer, mais dont les thèmes, eux, seront en rapport avec la date de leur première édition discographique. Tout simplement parce que c'est sur scène que notre Nina Simone était vraiment au maximum de sa sensibilité. Donc, Porgy and Bess, enregistré sur Little Girl Blue, dont la sortie de single en mai 59 par son ex-compagnie Bethlehem, va la classer au numéro 4 sur les charts pop, incroyable, et numéro 18 sur les charts R&B. Je vous propose un enregistrement réalisé le 19 mai 1985 au Savoy Theater de Londres. And successfully achieved that goal. The owner said he wanted a singer, and of course I was a pianist. So he asked me, he said, can you sing, Nina? And I said, well, I know one, just one little song. I love you, Porgy. Don't let him take me. I need it, give it to me. Don't let him handle me and drive me mad. You can keep me. I want to stay here with you forever. And I'll be so glad. Yes, I love you, Porgy. Don't let them take me. Don't let them handle me with his hot hand. Non, mais voilà, c'est vraiment l'art à cette époque-là, le cinéma à cette époque-là, la vie sociale à cette époque-là. Tu vois, c'est vraiment ça. I've got my man. Vous ne disiez pas les mêmes choses, quoi, même avec des mots différents. And I can go even further back than that. I remember when I was a little girl, my father said to me, Nina, I promise you, one day we'll go and see far and distant places. You'll travel around the world. And you, my darling, you will have your joys and pains. You'll have your joys and pains. And one of these days you'll see that we all are as one. So, I search.
Je vais raconter une petite
histoire. I went to Geneva, Switzerland, and I loved it. How much I loved Geneva. I love it so much. But there was no Porgy. So I went to the motherland. I went to Africa. And there I found him. And there I lost him. And of course, my one mistake was coming back. Someday I know he's coming back to call me. He's going to handle me and hold me so. It's going to be like dying, Porgy, deep inside me. But when he comes,
C'était I Love You Porgy et nous continuons notre émission Cala Jazz sur 100.9 Cala bien sûr sur Nina Simone avec Philippe Dédé Françoise. Nous sommes donc à la fin des années 50 et je crois que le succès commence à venir notamment avec un titre très connu, oui, Philippe.
Avec un titre exceptionnel qui s'appelle My Baby Just Care For Me. Dans le texte, mon bébé ne fait que s'occuper de moi, quelle chance. Et donc, effectivement, le succès arrive, mais un succès qui va plutôt venir bien des décennies après, lorsqu'une grande marque va s'en servir pour faire sa promotion. Mais nous n'en sommes pas là. Nina Simone, malgré tout, avec cette histoire, va perdre pratiquement près $1 million, semble-t-il, en droit d'auteur. Et pour un titre qu'elle avait, semble-t-il, vendu $3 000. Donc, bien évidemment, le succès commence à arriver, elle commence à être connue, mais vous avez pu également écouter dans l'enregistrement qu'on vient d'entendre qu'on est très loin de Ella Fitzgerald, de Sarah Vaughan ou de ces grandes chanteuses noires américaines de l'époque, issues de l'époque swing ou bebop. Donc, je vous propose d'écouter ce titre, My Baby Just Care For Me, enregistré au Jazz Festival de Montreux. En 1987, en plus piano solo, donc je pense qu'on n'a pas souvent l'occasion de l'écouter sous cette forme. Et vous allez bien sûr bien voir que le piano classique est bien présent. Et s'il en était vraiment besoin, qu'on le précise à nouveau. Montreux.
C'était My Baby Just Care For Me, oui Philippe ?
Ah oui, non, une petite anecdote, mais que tous les amoureux de Nina Simone connaissent, je pense, ou tous les amoureux de Montreux. Je crois que c'est cette fameuse année, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est cette fameuse année où un spectateur est arrivé pendant son concert et elle a fait tout arrêter le temps que cet homme-là ou cette femme, je ne sais plus, prenne sa place et s'assoit. Donc Nina Simone était aussi, il avait une forte personnalité, c'est le moins qu'on puisse dire.
On en reviendra là-dessus, on en parlera. Et bien maintenant, je me tourne vers Françoise pour nous parler de cette période. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce s'est-il passé dans l'art
dans
ces années-là ?
Que se passe-t-il dans le monde ?
Oui, entre autres, oui.
Alors, ce que l'on sait moins, c'est que ce titre a été une chanson d'amour de jazz blues composée 30 ans plus tôt, en 1928, et a fait le succès de la comédie musicale Whoopi sur Broadway. Or, si en une génération, les États-Unis connaissent une véritable mutation en matière artistique, ils sont depuis les années 30 entrés dans l'ère de la modernité. Pourtant, ça commençait bien mal. En 1929, le krach boursier entraîne à sa suite la Grande Dépression. Mais 1929, c'est aussi l'année de la fondation du MoMA, le musée d'art moderne de New York, qui fait encore office de référence. Conséquence de l'exposition qui a fait scandale, l'art Morichaud en 1913, les Américains découvrent l'art européen. Présenté à Boston, puis Chicago, ça fait scandale. Mais cette exposition donne l'impulsion aux premières collections d'art moderne outre-Atlantique. Alors pourquoi revenir si loin ? Parce que c'est quand même en pleine dépression que naît Nina. Et comme à chaque crise, l'art se replie sur le réalisme. Dans les programmes d'aide sociale, le réalisme frise même le régionalisme, tout aussi figuratif. Parce que le figuratif, ça rassure. Et les artistes dénoncent les problèmes sociaux et s'intéressent au sort des plus démunis. Le plus connu chez nous, c'est Edward Hopper, qui rencontre de la solitude dans des paysages urbains. Ces images totalement reconstruites reprennent les cadrages et décors du cinéma et de la photographie. Mais moins célèbre, Joseph Laurent s'intéresse quand même déjà au sort des Afro-Américains. Quant à Ben Shown, il est révélé en 1932 par des tempéras en faveur des anarchistes Sacco et Vanzetti, à qui John Baez, en 1971, rendra à nouveau hommage avec sa chanson « Here's to you », BO du film, qui racontera l'erreur judiciaire du procès. Alors c'est véritablement après la Seconde Guerre mondiale que l'économie américaine repart, et avec le début de la guerre froide, la peinture américaine devient un enjeu politique pour le gouvernement. Et c'est en 1948, avec la première exposition de l'expressionnisme abstrait, que New York s'impose avec une nouvelle génération d'artistes qui y vivent, d'où le nom d'École de New York. Paris perd alors sa place en tant que centre majeur de la modernité. Et c'est l'apparition de deux courants en peinture, le « all over », qui avec ses toiles immenses sont entièrement peintes, d'où le terme de « all over », où chaque coup de pinceau annule le précédent. L'artiste remet en question le rapport de la surface et du fond. La surface peinte semble se prolonger au-delà des bords. La couleur est utilisée comme matière. Et bientôt, le mouvement prend deux aspects. Au color field va s'ajouter l'action painting. Et les peintres de l'action painting, vous les connaissez, c'est Jackson Pollock, à la suite des surréalistes, qui va prolonger les recherches d'écriture automatique avec l'invention du dripping. Alors c'est quoi le dripping ? Il fait couler la peinture sur sa toile, posée à même le sol, sans la toucher de son pinceau, employant des outils empruntés à d'autres domaines, couteaux, truelles, bâtons, seringues. Et proche du minimalisme, le color field, lui, ou champ coloré en français, sera représenté par des artistes comme Barnett Newman, Clifford Steele, peut-être le plus connu Mark Rothko, qui figure de larges bandes de couleurs pures dans des grandes toiles qui invitent à la contemplation ou à la méditation. Et on reparlera du pop art qui va arriver en même temps que le succès chez Nina Simone, car c'est Robert Rauschenberg qui fera le passage, qui est considéré véritablement comme le passeur entre l'expressionnisme abstrait et le pop art américain.
Merci beaucoup Françoise pour ces explications.
Je peux faire un petit commentaire ? J'ai pas retenu quand Françoise, tu as dit la peinture qui coule sur les tableaux. Ça a été repris, ça, pour si jamais vous voulez le voir de vos yeux, comme on dit, dans un film de Paul Mazursky, je crois, qui a été primé à Cannes et qui s'appelait Une femme libre. Et on voit, cette femme est amoureuse à un moment d'un peintre, et ce peintre, peint à la façon dont tu viens de décrire, en jetant donc de la peinture sur la toile, sans autre outil que simplement toucher la toile.
Merci voilà. Pour cette...
Et pour avoir aussi visité le MoMA à New York, c'est effectivement encore sur la place un très très grand musée. Ouais, alors ouais. Après, il faut pas y aller avec des a priori, quoi, parce qu'il y a des choses, voilà, il faut y aller. Quoi.
Pas avoir peur, on est voilà. D'accord. Merci bien à vous deux pour ces brillantes explications. Donc là, on arrive au début des années 60, où après un bref mariage avec un blanc, elle va se remarier avec un détective de la police de New York, qui deviendra son manager plus tard. Et là, elle va vraiment commencer à devenir populaire et affirmer son positionnement politique. Mais au niveau musical, Philippe, elle était très prolifique. Alors, elle compose ou on l'aide ? Tu nous expliques un peu ?
Alors, elle compose, on l'aide. Elle reprend des chansons, comme l'a très bien dit tout à l'heure Françoise, effectivement, aussi. C'est donc une période où elle va aussi se tourner. Et elle va plutôt, c'est assez étrange, être classée plutôt dans les chanteuses pop. Mais peut-être aussi à cause, effectivement, de ce discours social et racial, entre guillemets, quoi. Enfin, contre, bien évidemment. Et elle va gagner pas mal sa vie, d'ailleurs, et tout ça pour continuer ses études classiques. À cette période, notre chère Nina va enregistrer à peu près une dizaine d'albums et s'installe définitivement parmi les grandes chanteuses, alors, de jazz, j'y reviens, de soul ou de rhythm and blues, ou de pop, au même titre que Billie Holiday, Ella Fitzgerald, Aretha Franklin, ou encore Roberta Flack. Pour illustrer cette période, je vous propose deux enregistrements. Le premier réalisé le 30 juin 1960 au Newport Jazz Festival, qui est certainement un des plus grands et plus importants festival jazz au monde. Il nous permet de l'écouter sur un thème où son accompagnement piano au registre classique, encore une fois, elle va marier avec force sa voix vers la grande complainte où elle conjure son ami de rentrer à la maison. You'd be so nice to come home too, please. Nina Simone, Newport. He played the horn before he talked. Born on the afterbeat. He patted his foot before he walked. Clean across the river, clean across the river. He woke up the working people and kept the easy living. Call 'em Buddy Bolden. Bon, forcément, vous l'avez remarqué, petite erreur de lancement. Vous venez non pas d'entendre ce que je vous ai proposé, mais un autre thème, Buddy Bolden, qui est un extrait d'un enregistrement réalisé sur la musique de Duke Ellington, enregistrement de 1962, et qui est là aussi, et je voulais forcément en parler après, mais bon, c'est maintenant, qui est aussi très révélateur de la sensibilité afro-américaine, parce que je suppose que vous avez senti à quel point il y avait du désespoir dans toute sa voix. C'était prenant, c'est ce qui s'appelle vous mettre les cheveux tout droit sur la tête, quoi. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va quitter Duke Ellington et puis on va retourner à Newport. D'accord. On va retourner à Newport en 1960, donc 2 ans avant, pour écouter mon fameux « You'll be so nice to come home too ». Écoutez bien, je ne redis pas tout ce que j'ai dit. Et allons-y, Newport, magnifique, au bord de la mer.
Hey Buddy Bolden, et vous êtes toujours sur Cala 100.9 dans la magnifique émission Cala de Jazz. Et maintenant, nous allons continuer avec Philippe. Vas-tu nous parler un peu des musiciens qui l'accompagnent ?
Alors, pour continuer, je vais parler des musiciens, dis-tu ?
Non.
Non, quel jour,
non ?
Si, je peux en parler. Bon, allez, on y va. Donc pour continuer, ouais, je vous propose toujours, pour illustrer cette période, un autre enregistrement, cette fois publié et réalisé au début des années 62 au Village Gay de New York, toujours. Il n'y a rien à faire, New York, on y revient. Bon, un grand standard de jazz, cette fois-ci, Bye Bye Blackbird. Vous allez pouvoir apprécier, j'espère, tout au long de ce morceau, son jeu de piano à la fois classique et jazz, parce que là aussi, c'est comme New York, on y revient. Et je vais donc en profiter pour mentionner le nom des musiciens qui l'ont accompagné, d'ailleurs, pratiquement tout au long de sa carrière. C'est assez rare pour être noté. Donc, le percussionniste Leopoldo Fleming et le guitariste et directeur musical Al Sharkman, qui ont donc été présents. Je crois qu'il faudrait vraiment vérifier dans le détail, mais je crois qu'ils sont vraiment présents pratiquement sur tous les enregistrements et pratiquement sur tous les concerts. Bon, en tout cas, écoutons Bye Bye Blackbird, cette fois-ci enregistré au Village Gate de New York. Thank you.
C'était Bye Bye Blackbird. Et pour finir cette période des années 60, que nous proposes-tu, Philippe ?
Alors, je vous propose un troisième enregistrement donc, pour conclure cette émission. Enregistrement studio, même période, bien évidemment, et que je pourrais sous-titrer « Quand Nina ou les producteurs », je répète, « Quand Nina ou les producteurs vont chasser les oreilles blanches ». Vous allez tout de suite comprendre pourquoi en écoutant un extrait de « Broadway Blues ». Blues ballade, et le thème s'appelle Night Song. Allons-y. Ah. Et vas-y, je te mets du violon.
Voilà.
Summer, not a bit of breeze. Neon signs are shining through the tired trees. Everyone has someone and a place to go. Now listen, hear the cars go past. They don't even see me flying by so fast. Thing I know is I'm not going there. Where do you go when you feel that your brain is on fire? Where do you go when you don't even know what it is? Laughter everywhere. Hear it. Life is in the air. As the night comes and the town awakes, sound of children calling and the squeal of brakes. Music, but a lonely sound when you can't help wondering, where do I belong?
C'était Night Song. Disons, tu as vraiment sorti les violons. Là.
Et encore, il paraît qu'ils ont refusé du monde à la porte. Il avait qu'ils voulaient jouer. Non, mais ça, ça a été. Enfin, dans toutes les émissions, j'espère que vous aurez le plaisir de partager avec nous, chers auditeurs. À un moment donné, que ce soit des instrumentistes ou des chanteuses ou chanteurs, toujours à un moment donné, il y a eu en arrière des grandes plages de violon, et c'était une plaisanterie quand je disais pour faire joli dans les oreilles blanches. Bien évidemment, c'est pas uniquement que ça, c'est surtout musical, mais c'est vrai aussi que quelque part on les a souvent taxés d'aller chercher un peu le public à droite ou à gauche. Voilà.
D'accord. Oui, Dédé.
Oui, moi, ce que je voulais dire, Philippe, j'ai l'impression, les différents morceaux qu'on a écoutés dans notre émission là, plus ça allait, plus on était jazz.
Oui.
On a eu du rythme, beaucoup de rythme à l'avant-dernier morceau. Ouais. Je trouve qu'on est monté.
Mais c'est parce que Nina Simone, elle a cette particularité, effectivement, d'avoir été classée après, à peu près dans tous les charts, ce qu'ils appellent aux États-Unis les charts, c'est-à-dire c'est un classement. Donc elle a été dans la pop, elle a été, comme vous disiez tout à l'heure, dans le rhythm and blues, dans le jazz, bien évidemment. Et à chaque fois, elle a été à chaque fois dans le haut. Donc, elle a touché effectivement à plusieurs formules. Son grand regret, c'est de jamais avoir été dans les charts classiques. Quoi. Voilà. Ça, c'est le drame de sa vie, mais on aura une seconde émission pour en parler plus en détail.
Eh ben oui, j'imagine. Parce que je vois que nous allons devoir nous quitter. Eh bien, donc, je propose de se retrouver le mois prochain pour continuer de parler de Nina Simone.
Bien sûr.
Hein, tout le monde est d'accord, Françoise, tu es...
Ah bah oui, avec plaisir.
Bon. Eh bien maintenant, je rappelle quand même que vous pouvez nous réécouter le dimanche midi en podcast sur la radio Calade. On va se dire au revoir.
En musique.
Voilà, avec le petit générique de fin. Bonsoir les amis, bonsoir Françoise.
Composé par notre ami Philippe.
Oui, c'est un grand mot, mais... Eh bien écoutez, bonsoir à tous, bonsoir à mon cher Richard, mon cher Dédé, ma chère Françoise, loin de micro, mais... bien présent dans nos cœurs.
À bientôt à tous.
Et puis à bientôt à tous pour Jazz.
Voilà.